cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.
On est déçu par, par cette version.
Par cette première version.
Oui. C'est le moins qu'on puisse dire.
Qui est vraiment froide, c'est déroulé, c'est professionnel au mauvais sens du terme.
Routinier. C'est gros. C'est gros
et... Alors le son est bizarre parce qu'à la fois il y a de l'écho et à la fois on a une grande sensation d'étroitesse du son, c'est très bizarre. Mm. Hein, et puis alors avec des mises en valeur de certains événements, notamment les timbales, très bizarre. Bon. Incompréhensible.
Guerre d'intérêt, on va
absolument
essayer d'écouter la deuxième. Alors c'est comme tout à l'heure dans le deuxième mouvement, cette version nous surprend. On ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi vif et d'aussi vivant. Hein. Si ? Non, moi j'avais été déçu par l'écoute du premier mouvement.
Pourquoi pas, oui, mais il y avait une espèce de rigueur dans le premier mouvement qu'on retrouve un peu ici, au niveau rythmique en tout cas. Mais ce qu'on retrouve aussi, c'est un côté extrêmement vivant, effectivement, avec des vrais événements. Hein. Il y a même du précipité par moment, ce qui est quand même pas si commun que ça chez Karajan.
Il y a des, oui, qui est bien en situation dans ce mouvement, de toute façon.
Et il y a une espèce d'exaltation générale aussi qui est très jolie.
Puis on a bien l'idée de tourbillon qu'il doit y avoir dans ce mouvement. Et la danse, là, pour le coup,
moi,
c'est bien
rendu. Je regrette pas tellement le côté mordant, mais voir le côté agressif. Et peut-être l'absence de respiration. C'est-à-dire qu'il y a une conception monobloc, ça, on comprend bien.
Oui, mais la prise de son rend aussi ce côté agressif, on est d'accord. Ça n'a pas progressé. Mais...
C'est vrai que c'est très surprenant, ne serait-ce que par rapport au mouvement lent, qui était extrêmement lent. Là, il prend un tempo.
Donc c'est une version très contrastée.
Très contrastée. Ouais.
Il faudra voir ce que ça donne en écoute continue.
Oui.
C'est intéressant, absolument. En tout cas. Elle est surprenante, cette version. Écoutons la troisième. Le gros son Karajan, la démonstration d'orchestre. C'est très monobloc, mais c'est assez ennuyeux. Hein.
Extrêmement maîtrisé, mais terriblement stable, statique. C'est même, il y a un côté propre, même, j'ai trouvé. C'est-à-dire que tout
un peu
est
gentil.
Extrêmement soigné. Oui, bien sûr.
C'est
oui.
Une mécanique bien huilée, c'est gros, massif, à l'image de la prise de son.
Il n'y a aucun déséquilibre, ouais. Ça avance pas. C'est...
L'apothéose de la danse, là, pour le coup, on ne l'a pas. Hein. Alors, on va écouter la quatrième version. Stéphane, vous faites la moue.
Oui, je suis un peu dubitatif pour apparemment ce qui a l'air d'être un live. Il y a de l'énergie, mais de la détermination, mais en même temps, il y a beaucoup de dureté dans les aigus. Une version intéressante, mais on ne sait pas trop où il veut aller. J'ai l'impression qu'il construit ça au fur et à mesure, par suite. Alors là, c'est vraiment l'opposé d'autres versions, par suite de blocs, par suite
c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, il y a un manque de cohérence flagrant dans cette version.
C'est assez curieux, un peu curieux, bonheur, intéressant, mais curieux.
On a l'impression que c'est une prise de radio qui aurait peut-être pas dû être enregistrée.
Oui, moi, la seule chose que je me dis, c'est qu'il faut replacer ça justement dans la perspective d'une discographie de Karajan. Et ce que je trouve assez amusant, c'est de voir ce qui reste de Karajan quand justement les conditions d'exécution sont pas excellentes, quoi. Et donc on retrouve certains petits phrasés, certains pianissimo subito qui arrivent toujours au même endroit. Donc voir ce qu'il a vraiment réussi à imposer, et puis le reste qui est effectivement un peu décidé.
Avec un orchestre avec des sonorités assez vertes là, quand on entend à la suite la 3 et la 4 là. Ouais. On vient de le faire, c'est quand même assez cruel pour celle-ci. Donc ce sera pas la version qu'on retiendra au final comme étant la meilleure, c'est évident. Écoutons la cinquième qui jusqu'à présent nous a plu sur chaque mouvement. Cette version 5 qui jusqu'à présent nous avait beaucoup plu, là j'ai l'impression quand même on est un petit peu déçu, non ?
Oui, moi je suis même passablement déçu, effectivement, oui. C'est un peu plus convaincant que ce qu'on a pu entendre auparavant, mais il y a quand même, là on retrouve le côté grosse machine, avec un tempo un poil en dessous qui n'est pas très pertinent, je trouve.
Et surtout ça... par rapport à la 2, parce que finalement, la vivacité qu'on avait dans la deuxième version, là, on la retrouve pas vraiment.
Oui, le propos est vraiment alourdi par rapport à la fois ce qu'on peut attendre et puis ce qu'on a pu entendre dans la 2, effectivement, et même par rapport à ce qu'on pourrait attendre de cette version qui, jusqu'à présent, justement, avait un côté un peu sincère.
Là, on retrouve les gros effets, l'aspect démonstratif, haute fidélité, un peu qu'on reproche parfois
à d'autres versions. Oui.
Et finalement, je trouve vraiment que ça manque de fraîcheur, ce qu'on trouvait dans la 2. Alors que là, c'est, comme on l'a dit en introduction, c'est un mouvement qui doit être un petit peu plus vivant que ça, non ?
C'est-à-dire que, en fait, c'est un scherzo, ce mouvement. Donc, il doit y avoir davantage de fantaisie, on ne dirait pas de relâchement, mais au moins peut-être un tempo un peu plus dense.
Oui, puis et l'imagination là, sonore aussi. Là, on est vraiment dans la démonstration pure.
Oui, et puis on reste bouche bée devant la beauté des timbres qui sont assez sidérants. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on aurait pu attendre quelque chose de plus percussif et de plus allant.
Alors voyons voir avec la version 6.
Thank you.
alors, Eric, qu'est-ce que vous en pensez de cette version numéro 6 ?
C'est un peu plus intéressant que la précédente, mais c'est assez vite caricatural, encore une fois, quoi. D'abord, il y a un côté énorme là-dedans, et je pense que vraiment, on touche un petit peu à la limite de l'exercice, là, de cet orchestre absolument massif, alors que là, il y aurait quand même tout de même besoin d'un peu de sveltesse. Tous les contrastes sont hypertrophiés, c'est intéressant en soi, parce qu'il y a, comme toujours avec Arayan, une démonstration d'orchestre fascinante, mais qui nous montre à chaque instant là où il faut écouter, ça devient un petit peu pénible. Et puis il y a aussi des détails surjoués, c'est sûrement dû aussi à la prise de, à la prise de son aussi. Ouais. Bon, tout ça est extrêmement artificiel.
Mais ceci dit, moi, je trouve quand même que par rapport aux versions qu'on a entendues précédemment, par exemple la 5 ou la 3, les équilibres entre les vents et les cordes, par exemple, sont peut-être un peu meilleurs. Enfin, en tout cas, plus naturels.
C'est vrai.
Parce qu'on parle d'artificialité depuis le début, mais enfin, là, moi, il me semble qu'elle fonctionne quand même dans le genre, hein, évidemment, avec les limites que vous venez de dire, mais elle fonctionne plutôt bien.
Oui, parce que tout est un petit peu calqué sur la verticalité rythmique. Donc là encore, il y a un morcellement complet, presque une forme de séquence au niveau des...
De segmentation
de la lecture. Bon, c'est
ce qu'on avait dans le premier mouvement.
C'est intéressant, mais enfin bon, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Ça montre véritablement ses limites.
Limite de l'esthétique du chef, hein, en fait, parce que l'orchestre est éblouissant de virtuosité, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. À un tel niveau de virtuosité, c'est un petit peu... On reste sur sa fin, parce que on a l'impression que c'est une musique qui finalement, veut rien dire, à part des notes sublimes. Mais...
Bah, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même. Donc il y a une accentuation complètement...
C'est une forme de tourbillon, alors.
Ouais, non.
Mais pas tel qu'on l'attendait.
Pas tel qu'on attendait, en effet. Ouais.
Alors, on va écouter la 7e version. Alors là, une nouvelle fois avec cette version, on a l'impression d'une grosse machine, mais qui tourne vraiment à vide. On a l'impression que l'orchestre en a un petit peu marre. Je vous laisse
personne
avec Arayan. Hein.
Personne n'est intéressé à ce qu'il fait, c'est vraiment. Et nous non plus d'ailleurs. On n'est pas tellement intéressé à ce qui se passe. C'est la routine, la merveilleuse routine, mais de la routine, quoi.
Routine d'autant plus que la prise de son est quand même très, très sans intérêt. Enfin bon, il n'y a aucune profondeur.
Aucun relief. Le type de Arayan, c'est un paradoxe qui est indéfendable. Enfin, c'est pas possible. Bon, ben on va passer à la 8e alors. Thank you. Donc cette version numéro 8, elle est vraiment passionnante parce que là, on est vraiment dans la vie. On a l'impression qu'il joue vraiment pour dire quelque chose, alors que jusqu'à présent, à part dans la deuxième version, on restait vraiment sur notre fin.
On va se répéter sur cette version, on va dire qu'on sent la prise de risque, ce qui n'est vraiment pas le cas des autres versions, en tout cas dans ce mouvement-là, sauf peut-être sur la 2, effectivement. Il y a bien sûr un tempo plus vif, mais il n'y a pas que ça, je crois. On a aussi le sentiment, comme on dit au tennis, qu'ils lâchent leur coup, quoi, enfin. Mmh.
Hein. Ils ont envie de jouer.
Tous les effets prennent un sens qu'on n'avait pas dans les versions précédentes.
Et du coup, il y a plus de souplesse aussi, globalement. Oui. Je ne sais pas si vous avez senti ça tous les deux, mais on avait un sentiment de raideur dans les autres versions.
Bah, les autres, c'est un peu les faux vents cages. Là, on a l'impression qu'il est enfin dans la nature. Le faux
vélage. Oui, il se libère complètement. Il y a des dynamiques qui sont creusées, ils prennent des risques. C'est vraiment très, très beau. Hein.
Et c'est une excellente version de ce scherzo, je trouve. Ouais. Elle est absolument passionnante.
Bah dans l'absolu, elle est extraordinaire. Ouais. Oui, extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir mieux, mais peut-être avec la 9e. Nouvelle fois avec cette version numéro 9, on a l'impression d'avoir l'esthétique de Karajan au meilleur quand même. Enfin, avec tous ses défauts évidemment et surtout toutes ses qualités.
Mais aussi toutes ses qualités bien sûr. Ouais.
Stéphane.
Bah oui, c'est-à-dire que de toutes les versions studio, probablement celle-ci semble la plus libérée dans la mesure où elle rentre le moins dans le moule un peu étouffant de ce qu'on a entendu jusqu'à présent.
Enfin, c'est avec surtout Karajan. La plus aboutie, moi je trouve.
Oui. Oui, et puis en plus, il y a une prise de son accessoirement qui rend...
Parce qu'en termes esthétiques, c'est quand même extrême. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, plus personne dirigerait des symphonies de Beethoven, avec une telle lourdeur, même. On peut dire le mot, quand même. C'est une énorme machine.
En même temps, il y a une puissance qui est hallucinante. Et là aussi, je pense qu'aucun orchestre aujourd'hui arriverait à rendre cette puissance.
Tout simplement, on n'y arriverait pas, enfin, même si, en essayant, surtout celui-ci.
Mais il y a quelque chose de moins figé que dans d'autres versions de studio, effectivement, qui est probablement lié à la prise de son, qui donne beaucoup de profondeur de champ. Hein. C'est assez impressionnant. Donc évidemment, on se reçoit ça moins en face, comme ça.
Hein. Oui, puis là, il y a un vrai plaisir de jouer, alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les versions...
La septième, par exemple,
date certainement de la même époque, mais dans laquelle on avait un sentiment de grisaille et de routine qui était absolument rédhibitoire. On va écouter donc maintenant la dernière version, la 10.
Thank you.
Moi, j'avoue que j'ai du mal à me laisser emporter par cette version.
Oui, c'est vrai, mais il faut vraiment la resituer historiquement, je pense. Moi, je trouve qu'il y a par exemple un souci de mise en place qui, pour l'époque, est absolument incroyable. Quels enregistrements de l'époque ou antérieure étaient aussi, bien mis en place? Tchaïkovski, peut-être, c'est tout. Hein. Personne n'osait.
Tchaïkovski, qui est en fait le modèle caché de Karajan.
Oui, bien sûr.
Non, c'est pétillant de vie, c'est très tenu, c'est très agréable. Puis on a envie de savoir ce qu'il y a derrière, la suite. C'est vraiment très bien. C'est une très, très
Est-ce qu'on peut tirer un bilan de ce troisième mouvement? Une fois de plus, je dirais que c'est vraiment pas évident. Hein.
Non, et puis surtout que c'est un mouvement finalement dans lequel Karajan se débrouille pas très bien. Hein. Autant dans le deuxième mouvement, il imposait son esthétique. Ouais. Alors on pouvait y adhérer ou non, mais au moins il y avait une cohérence. Là, je trouve que trop souvent, son esthétique va vraiment à l'encontre du sens du mouvement. Il n'arrive pas vraiment à trouver le fil. Et il faut vraiment qu'il y ait soit l'urgence du live, soit une prise de son absolument délirante qui va creuser l'orchestre jusqu'au bout pour l'aider à faire passer ça. Mais en studio, en tout cas, ça ne marche pas, hein, vraiment. Tout le côté kermesse, le côté un petit peu fou de ce scherzo, comme le disait Stéphane, c'est-à-dire avec le côté un peu joyeux, provocation presque, il y a un côté provocateur dans ce scherzo.
Non, parce qu'il veut faire rentrer vraiment l'orchestre dans le moule qu'il lui a attribué. Alors c'est ça, c'est très juste, oui. Ou bien il y a le live, ou bien c'est un orchestre très typé au niveau des sonorités.
Oui, puis viennoise, il y a peut-être une petite abondance de sérieux de la part du chef aussi, et même de l'orchestre qui s'écoute jouer quand même. Hein. Ouais. C'est un petit peu le défaut. Alors j'espère que dans le final, on n'aura pas ça. Nous arrivons donc au terme de cette écoute de la 7e symphonie de Beethoven dirigée par Herbert von Karajan. Alors Stéphane Friedrich vient de réaliser un exploit, c'est-à-dire qu'il a compilé les notes que nous avons pu prendre au fil de cette écoute. Et il résulte un classement que nous allons vous dévoiler par ordre décroissant. Donc quelle a été la version que nous avons le moins aimée, Stéphane ?
Donc par ordre croissant plus exactement. La version est donc la
4e. Oui, par ordre croissant, excusez-moi.
La 4e version.
Alors cette 4e version, c'est un concert de l'Orchestre Symphonique de Vienne, paru chez Orfeo et enregistré en 1957. J'avoue que moi, c'est une version que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça a été publié en 1990. Et j'avoue qu'elle a été oubliée à juste titre.
À juste titre, hein. Oui.
Elle est couplée avec la symphonie d'Hindemith. Mais bon, c'est vraiment une archive radio qui aurait pu rester dans les archives. Hein.
Ouais.
Décevant.
Ensuite, l'orchestre n'est pas du tout à la hauteur.
La version suivante est la 7e.
Alors, là, donc, en fait, cette version est peu connue également. C'est une version enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin en novembre 82. C'est la version dite télémondiale, c'est-à-dire que c'était la bande-son des dernières vidéos de Karajan publiées par Sony. Et là, le moins qu'on puisse dire aussi, c'est que la routine a vraiment gagné. Hein. Généralement, on a coutume de dire que cette version-là correspond au dernier enregistrement de Karajan, donc la dernière intégrale pour Deutsch. Celle qui était parue en Karajan Gold, mais bon, à moins qu'elle arrive juste à côté dans le classement, je crois que c'est vraiment le jour et la nuit entre nous.
Hein. Oui.
Donc déception pour cette version 82. Ensuite.
Ensuite la première.
Alors la première, c'est à nouveau une bande qu'on nous avons repiquée d'un
DVD.
D'un DVD, mais cette fois c'est la version Unitel. Je le retrouve pas. Voilà. Enregistrée en octobre 71. Alors là, en fait, ce sont des versions plus ou moins de concerts, c'est-à-dire jouées sans public, mais en une prise, en studio. Si, si, les deux. Et on s'aperçoit qu'elles sont très décevantes. Hein. Ce ne sont pas des concerts, ce sont de faux concerts, en fait.
Mais simultanés pour la radio ?
Non, pour la télé.
Pour la télé uniquement.
Non, ce n'était pas du tout... Alors peut-être que le repiquage aussi n'aide pas, mais bon, on a vraiment fait à partir de la bande audio DVD. 1971, on est entre les deux intégrales de Gramophone, les deux premières, mais une fois de plus,
C'est très froid, très distant, comme les films même.
Très distant, oui, tout à fait, avec une esthétique superficielle et figée, et datée.
La version suivante, c'est la version monophonique de 1941, version que nous avions écoutée.
On l'avait reconnue évidemment à cause du son, mais moi, je viens de le dire tout à l'heure en écoutant le final, pour moi, c'est une découverte. Moi, je suis vraiment surpris d'entendre Karajan comme ça.
Elle a été publiée chez qui, donc
Alors là, actuellement, elle est disponible... Donc, elle a été publiée d'abord par Deutsche Grammophon en 78 tours, mais elle a été rééditée dans le coffret original Masters des premiers enregistrements de Karajan. Un coffret de 10 CD chez Deutsche Grammophon, très bien repiqué, pour le coup.
Oui, c'est impressionnant. Quand même, on a tous remarqué cette prise de son, qui, pour 1941, est assez stupéfiante, et qui permet d'entendre, justement, le travail de Karajan à cette époque-là. Pour ça, c'est intéressant, j'ai trouvé.
Ensuite, on en arrive aux Alors nous versions avons donc, plus satisfaisantes.
Nous avons deux versions que nous avons classées à égalité, qui sont les troisième et seconde versions entendues.
Alors ça, c'est assez amusant. Donc on va peut-être commencer par parler de la version numéro 3. Alors la version numéro 3, qu'on avait trouvée un peu emphatique, un petit peu lourde sur certains mouvements et trop démonstrative. C'est effectivement la première version pour Deutsche Grammophon, pardon, de l'intégrale avec la Philharmonie de Berlin, enregistrée en 63. Un commentaire, Eric ?
Bon, finalement, on retrouve bien l'image qu'on en avait, je crois, de cette intégrale de 63, enfin des années 60 en tout cas, hein, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu trop travaillé finalement, trop démonstratif et avec une volonté d'originalité parfois mal placée.
Oui, alors régulièrement, on essaye de la réhabiliter, cette version, par rapport à celle de 77 ou à la dernière, qui pour le coup est vraiment sous-estimée. Peut-être un petit peu à tort, hein, quand même. Hein. Bon, puisqu'on a mieux classé certainement les deux intégrales suivantes.
Nécessairement.
Alors, c'est amusant de voir qu'on a rapproché cette version, donc, qui était la troisième, à la deuxième, qui correspond à la première intégrale de Karajan, donc avec l'Orchestre Philharmonia de Londres, pour EMI, en 1953. Une version finalement qui est une bonne surprise de cette écoute. Hein.
Bah, elle a aussi la vertu d'être complètement différente. Alors évidemment, ça nous titille un petit peu l'oreille.
Oui, puis en écoute parallèle comme ça, évidemment, ça ressort puisque ça ressemble pas au reste. C'est sûr, mais elle est intéressante parce qu'elle est,
bah, il va
elle,
jusqu'au
elle
bout
est vraiment originale.
Il va jusqu'au bout de sa logique en plus. En
et puis chaque mouvement est pris pour lui-même. C'est
ça serait probablement, oui, ça serait probablement la seule version avec la version historique dans laquelle on ne pourrait ne pas reconnaître Karajan.
Oui, bah c'est logique, hein. C'est un peu Karajan avant Karajan, ouais. Hein, c'est les deux premières versions.
C'est Karajan avant la stéréo.
Alors là, oui, c'est juste. Mais il y avait aussi la version du Symphonique de Vienne. Avec pourtant Arnoncourt au violoncelle, on est vraiment tous très déçus. Alors Stéphane, ensuite
il y a deux versions
qu'on a un peu de mal à départager.
Dans les quatre premières versions.
Parce qu'elles sont assez proches.
Il y a donc deux versions que nous avons classées à égalité, qui sont les cinquièmes et neuvièmes.
Alors c'est passons. Les troisièmes ex aequo, donc.
Voilà, les troisièmes ex aequo. Passons tout d'abord par la neuvième version.
Alors la neuvième qui ressemblait très étrangement à la sixième et à la huitième, à juste titre, puisque ce sont trois versions avec le Philharmonique de Berlin. La neuvième, qui nous a tant impressionnés par sa prise de son
Et son luxe.
Et sa prestation orchestrale, ouais. Son côté hi-fi, en fait, c'est pas la version Karajan Gold enregistrée en numérique, comme on l'avait cru. C'est la version de 77, donc la plus connue, celle qui a été rééditée de nombreuses fois dans les collections économiques et qui est disponible en coffret depuis toujours.
Ça, c'était un peu une surprise.
Oui, parce que moi aussi, je m'attendais à ce que ça soit le vainqueur. C'est la version qui, surtout dans la 7e et la 5e, qui est considérée comme étant vraiment l'aboutissement
de l'art de Karajan, oui.
Voilà. Donc suspense, on ne sait toujours pas qui arrive.
Alors, qui arrive dans les trois premiers,
la cinquième, on l'a dit parce que l'esthétique sonore était différente de par la prise de son DK et puis aussi par la qualité de l'orchestre qui est différente. C'était la version qui n'est pas très connue mais qui est vraiment magnifique, enregistrée avec le Philharmonique de Vienne, non pour DK, en 1959, à l'époque où Karajan venait de prendre la direction de l'opéra. Très belle version, mais un petit peu décevante
Surtout pour les deux premiers mouvements, oui. Les deux derniers mouvements sont un peu moins intéressants, mais les deux premiers mouvements étaient vraiment... dans l'esthétique de Karajan, je trouve que vraiment le Philharmonique de Vienne apportait quelque chose.
Oui, puis
alors
ça
dans les deux derniers mouvements, c'est moins flagrant.
Oui, puis ça mettait vraiment en valeur les pupitres de la Philharmonie de Vienne. En plus, il faut vraiment saluer les ingénieurs du Sion, parce que vous avez dit 1959... la prise de son est vraiment stupéfiante.
Alors cette version est peut-être moins connue parce qu'actuellement en CD en fait elle est disponible que dans un coffret les années DK de Karajan, et qu'à cette époque donc pendant 4 ans Karajan a enregistré beaucoup pour DK et la Philharmonie de Vienne, mais il a enregistré qu'une seule symphonie de Beethoven qui est cette 7e et qui est dure à coupler. C'est pour ça qu'elle est pas disponible en fait actuellement en disque séparé. Et elle a été un peu occultée par les enregistrements Deutsch qu'on va retrouver peut-être là.
C'était pas alors les deux premiers, justement.
Le deuxième, voilà.
Alors le second, c'est la huitième version.
Ah, bah alors j'aurais dû me taire parce qu'en fait c'est une version semi-officielle, en fait on ne sait pas trop. Elle avait été très bien notée d'ailleurs par vous Stéphane quand le disque est paru dans Classica. C'est une version qui est parue sur un label canadien qui s'appelle Palexa. Et qui était couplé très bizarrement avec le Sacre du Printemps, tout simplement parce que ce sont deux concerts de 1978 avec Berlin, enregistrés à la Philharmonie de Berlin, donc quelques mois après l'intégrale de 77 qu'on a entendu tout à l'heure. Là, on est vraiment ébloui parce que c'est une on ne sait pas d'où vient la bande, certainement une bande radio pour avoir une qualité comme ça. Et la prestation est vraiment éblouissante.
Oui, et puis c'est la chance d'entendre Karajan en live. Ça, c'est très bien. Et peut-être le final et le tout petit point faible, s'il fallait vraiment discuter. C'est pour ça qu'on l'a mis en deuxième position plutôt qu'en première position. Mais contrairement à ce que je disais au tout début de ce cast, effectivement, le fait de pouvoir entendre un live avec la maîtrise qu'il y a là, mais en même temps, Bertrand l'a dit à l'instant, c'est juste après l'intégrale des années 70. Et
oui,
donc
mais
on peut
alors
imaginer
on
que tout ce travail-là est intégré.
Cette version, en fait, quand on écoutait la 9e, on n'a jamais rapproché la 9e de la 8e. Par contre, ce live-là, Palexa, on l'a toujours rapproché de la 6e, donc qui est le vainqueur dont on va parler maintenant, et qui est la dernière version de Karajan. Alors là, c'est vraiment une surprise, une demi-surprise, parce qu'on sait que cette intégrale est vraiment sous-estimée. Mais donc le vainqueur de cette écoute, la sixième version, est la version de l'intégrale dite Karajan Gold, qui est le dernier enregistrement de Karajan. Est-ce que ça vous surprend, Stéphane ?
Oui, énormément. D'abord, tout simplement, pas au niveau sur le plan rythmique, sur le plan du choix des tempi, parce qu'on s'aperçoit généralement que, enfin, dans la plupart des cas, les chefs d'orchestre, avec l'âge, ont tendance à descendre les tempi. Déjà, là, c'est pas le cas. Ensuite, on a l'impression aussi que ça peut être l'aboutissement d'un style de ce fameux legato de Karajan. et avec le summum de ce qu'on peut imaginer
ça,
en termes de
77, on n'a pas 84, on a plus. Ça.
Mais on pourrait imaginer que c'est le summum du maniérisme, et en fait c'est pas du tout le cas.
Il y a un retour à la simplicité. On l'a jamais eu la simplicité.
On peut pas vraiment dire ça. Non. Rappelons-nous aussi quand même qu'on a mis un peu en deçà les deuxième et troisième mouvements par rapport au premier mouvement, et au final qui sont eux largement au-dessus du lot par ce travail fouillé, la prise de son aussi évidemment qui nous a quand même bien marqué à chaque fois. Mais un retour au naturel, non, je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire ça. Mais en tout cas, un retour à l'essentiel, peut-être.
Essentiel et un peu plus de simplicité, quand même. Donc globalement, c'est la version que nous retenons et que nous nous engageons à réécouter. Voilà, bien merci. Donc c'était la fin de ce premier podcast consacré à la 7e symphonie de Beethoven.
Par Carréal.
Par Carréal. Merci.
Cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.